Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Des rassemblements à Rennes, à Bordeaux, à Strasbourg, à Versailles, des avocats, des juges, des greffiers regroupés derrière un même mot d'ordre, jusqu'aux deux principaux syndicats du secteur, l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature, qui avaient décidé de faire cause commune. Jeudi dernier, des centaines de professionnels de la justice se sont mobilisés pour contester le projet de réforme du ministère de la Justice. Projet qui n'est pas encore connu dans les détails. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, présentera son texte au Conseil des ministres en avril, à charge pour elle de convaincre d'ici là, et c'est une nécessité que de convaincre les professionnels de justice au regard des liens qui les unissent à la chancellerie. La première, la chancellerie, détermine la politique pénale. La deuxième, la magistrature, une partie en tout cas, est censée la mettre en œuvre. Et ce lien hiérarchique n'est semble-t-il pas prêt de disparaître. Alors, il concerne essentiellement les rapports entre le parquet, c'est-à-dire les procureurs et le ministère, un lien qui est contesté. Mais Emmanuel Macron a tranché en janvier dernier lors de l'audience solennel de la Cour de cassation. Le parquet à la française, a-t-il dit, se doit d'être rattaché à la garde des Sceaux. Pour les syndicats de magistrats, c'est une atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Certains vont même jusqu'à défendre une solution radicale pour assurer une réelle indépendance, la disparition de la chancellerie. Alors, faut-il supprimer le ministère de la Justice ? Eh bien, c'est une des questions parmi d'autres que nous allons poser ce soir à deux invités. Dominique Perben, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes ancien garde des Sceaux, vous avez occupé le poste du ministre de la Justice de mai 2002 à mai 2005. Et pour discuter avec vous ce soir, Dominique Rousseau, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien membre du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Et comme chaque dernier jeudi du mois, nous sommes en partenariat avec le journal La Croix, représenté ce soir par sa rédactrice en chef, Isabelle de Golemin. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Alors avec vous deux, Dominique Perben et Dominique Rousseau, même si on est en partenariat avec le journal La Croix, je voudrais commencer, si vous m'y autorisez, Isabelle de Golemin, par évoquer une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde. C'était au début du mois de février, tribune publiée par deux avocats qui reprochaient notamment à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, d'être intervenue lors du procès de Jawad Ben Daoud en disant ceci, c'était sur RTL, son attitude, donc à Jawad Ben Daoud, le logeur des auteurs des attentats de novembre 2015. Son attitude, qui est inqualifiable lors du procès, n'a aucune conséquence sur la sanction qui lui est impliquée. Et d'après ces deux avocats, eh bien, c'est une erreur que d'avoir évoqué un procès en cours, parce que ça porte atteinte à l'indépendance de la justice. Est-ce que d'abord, l'un et l'autre, vous partagez cette analyse-là, Dominique Perben ? Un ministre de la Justice a le droit ou doit s'interdire de commenter une affaire judiciaire en cours ?
Non, je pense qu'il ne doit pas le faire. Je me souviens pas de cette affaire. Je ne pense pas que Madame Belloubet ait voulu intervenir dans le déroulé du procès. Ça me paraît pas du tout être son état d'esprit. Il y a peut-être eu une réaction de un peu épidermique de sa part, mais je me souviens pas de cette affaire. Pour répondre plus profondément à votre question, je crois qu'il appartient évidemment pas au ministre, lorsqu'une affaire est engagée, lorsque l'affaire est devant les juges du siège, il ne doit aucunement intervenir.
Est-ce que c'est une tentation à laquelle il est difficile de résister quand on est ministre ?
Non, je pense que c'est assez facile d'y résister. C'est ce qui est difficile, on en reparlera sans doute de différentes manières tout à l'heure. Ce qui est très difficile pour un ministre de la Justice, c'est vis-à-vis de l'opinion, de faire passer l'idée qu'il ne doit pas et qu'il ne peut pas intervenir dans le déroulement de la justice dans sa forme la plus aboutie, c'est-à-dire le procès et la décision finale. C'est ça qui est difficile à expliquer et à faire comprendre à l'opinion et qui pense que le ministre, il est le patron de tous les juges. Bah, évidemment, il ne l'est pas. Et c'est d'ailleurs une des difficultés du job.
Dominique Rousseau.
Oui, je crois qu'effectivement un ministre n'a pas à faire de commentaires sur les procès en cours. Bon, il est peut-être tenté de le faire, mais je crois que précisément la responsabilité d'un ministre, c'est de laisser, comme on dit, la justice aller à son terme sans intervenir dans son déroulement.
Il n'a pas le faire au nom de quoi ? Au nom d'un principe particulier, qui est celui de la séparation des pouvoirs ?
Il n'a pas le faire au nom de l'indépendance de la justice. Et toute intervention du ministre de la Justice, aussi bonne soit-elle, a nécessairement un impact sur l'opinion, sur les juges. y a une théorie de l'apparence. Et si cette théorie de l'apparence a un impact, a un rôle, a une portée, eh bien, c'est de donner l'apparence pour le ministre de la Justice de laisser les juges juger sans avoir à prendre position au moment où se déroule le procès.
Sauf qu'est-ce qu'on peut pas se dire qu'à partir du moment où il y a un lien hiérarchique entre un ministre qui appartient à l'exécutif, le ministre de la Justice, et une partie de la magistrature, cette indépendance-là, de toute manière, elle est forcément extrêmement compliquée à mettre en œuvre, Dominique Rousseau et Dominique Perben.
Alors là, vous ouvrez le débat.
Je vais aller à fond dans
le débat. Ce qu'il y a de plus terrible pour la justice, c'est le soupçon. Et soupçonner la justice de ne pas être indépendante à l'égard du pouvoir politique, c'est ce qu'il y a de plus dramatique pour la qualité démocratique d'une société. Si une société doit croire en sa justice, si la justice est effectivement un des éléments essentiels de la qualité démocratique d'une société, il faut que cette justice soit indépendante. Indépendante et dans les deux, aussi bien le siège que le parquet. Parce que juger est évidemment important, mais poursuivre est une décision importante et qui a des conséquences sur la liberté de nos concitoyens.
Ouais, je rappelle, donc, le siège, ce sont les juges, le parquet, ce sont les procureurs.
Voilà. Donc, si vous voulez, le juger comme poursuivre sont des actions qui touchent la liberté des citoyens. Il faut donc que les citoyens aient la garantie que ceux qui poursuivent comme ceux qui jugent sont indépendants du pouvoir politique. Or, aujourd'hui, le parquet ne donne pas l'apparence, je donne ce vocabulaire volontairement, ne donne pas l'apparence et peut-être n'est pas en réalité indépendant du pouvoir exécutif.
Dominique Perben.
Je crois qu'il faut bien séparer les choses. Sur l'indépendance des juges, les choses sont actées depuis maintenant fort longtemps et sur ce sujet-là, il n'y a pas débat. Le débat porte sur l'autorité de poursuite. Le parquet, et c'est peut-être à cela qu'il faut être attentif, ne doit être qu'une autorité de poursuite, et en particulier, je reviens sur un mot qui a été prononcé par Dominique Rousseau, il ne doit pas pouvoir prendre des décisions limitant la liberté individuelle. Et cela doit être réservé au juge, soit au juge des libertés, soit au juge qui mène le procès. Donc ça, c'est très important. Mais l'autorité de poursuite, il est nécessaire qu'elle ait un lien avec le pouvoir politique. Parce que, pourquoi ? Il faut aller au fond des choses. À quoi sert l'État ? La première mission de l'État, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. C'est pour cela que les citoyens acceptent de déléguer à l'État une fonction qui est de faire en sorte que la société soit protégée. Et dans la protection, dans la sécurité, il y a évidemment la justice qui doit fonctionner. J'ai été nommé garde des Sceaux en 2002, au lendemain de l'élection présidentielle qui s'est faite sur les questions de sécurité avec Jean-Marie Le Pen au deuxième tour contre Jacques Chirac. Et je peux vous dire que lorsque Jacques Chirac m'a demandé d'assumer cette fonction, nous avons pendant une heure et demie évoqué cette problématique de la sécurité en France et de la nécessité de moderniser notre organisation judiciaire pour faire en sorte qu'elle réponde à l'attente des Français. Donc il y a une certitude, c'est que la question de justice, elle est au cœur vraiment et d'une façon noble du débat politique. Donc on ne peut pas séparer les grands enjeux de l'organisation judiciaire du débat politique et on ne peut pas les traiter comme s'ils étaient à part de l'ensemble de la vie politique. Et donc ce lien entre l'exécutif et l'autorité de poursuite, elle est nécessaire. Et si vous le permettez, tout à l'heure, peut-être je vous donnerai des exemples concrets que j'ai vécu comme garde des Sceaux pour que nos auditeurs puissent comprendre ce que je veux dire par là.
Eh bien, volontiers pour les exemples dans un instant. Question d'Isabelle de Golemin.
Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'un parquet qui serait indépendant n'appliquerait pas la loi ? Je vois pas bien le rapport dans ce que vous dites, parce que aujourd'hui le problème c'est qu'en fait les membres du parquet sont finalement leur avancement dépend de l'exécutif, donc c'est pas forcément une garantie d'indépendance par rapport à ça.
Sur les questions de nomination, parlons-en rapidement. Moi je suis depuis longtemps d'accord avec ce qui est en projet, c'est-à-dire d'aligner les conditions de nomination des parquetiers sur celui des juges du siège.
Donc c'est-à-dire c'est le Conseil supérieur de la magistrature.
qui doit donner un avis favorable. Le ministre ne peut pas nommer sans l'avis favorable. Mais je vais prendre l'exemple que j'ai en tête. En 2002-2003, nous sommes confrontés à une augmentation considérable des actes antisémites. À tel point que la communauté juive en France s'en émeut énormément, voit le président de la République, vient me voir, etc. Et avec le président de la République, nous réfléchissons à cette question. Et je mets en œuvre un travail très profond, dont certains se souviennent, qui a consisté à mobiliser les procureurs généraux, à faire en sorte qu'ils soient en relation avec des correspondants de cette communauté pour suivre les affaires dans le détail. J'envoie une circulaire d'instruction et je donne instruction aux procureurs généraux de veiller, lorsque les décisions de justice ne seraient pas conformes à l'idée que nous nous en faisons en termes de nécessité politique, de faire appel. Et il m'est arrivé, dans ce cadre-là, de donner instruction, à l'époque j'en avais le droit, par écrit, des instructions de poursuite ou des instructions pour faire appel à suite à des décisions qui me paraissaient pas du tout dans l'esprit. Donc on voit là que cette affaire, ce moment très difficile, il était politiquement extraordinairement important. Il s'agissait de savoir si nous allions pouvoir maintenir la cohésion de la société française et le sentiment de sécurité indispensable que chacun de ses membres doit attendre de l'État. Et donc là, il est évident que seul le pouvoir politique peut avoir cette volonté et cette capacité d'impulser un changement réel dans l'action de la justice. Voilà ce qui montre, à mon avis, à l'évidence, la nécessité de maintenir ce lien, bien sûr, dans la transparence et dans le respect, ensuite, des règles de droit.
Alors, que pensez-vous de cet exemple-là, Dominique Rousseau ? Est-ce que ça peut donner quand même aussi des arguments sur la nécessité de maintenir un lien, peut-être en le rénovant, mais de maintenir un lien quand même toujours entre le politique et le judiciaire, disons.
Non, mais depuis toujours, y a au moins deux thèses. Ceux qui considèrent que le lien hiérarchique entre le parquet et le ministre doit demeurer, et ceux qui considèrent qu'il doit s'arrêter, qu'il doit être rompu. Je fais partie de cette école de pensée pour une raison, simple, qui essaie de trouver un équilibre entre ce que Dominique Perben avançait tout à l'heure, c'est-à-dire l'objectif de sécurité et l'objectif de protéger les libertés publiques. Je ne suis pas contre, évidemment, le fait que les parquets aient un supérieur hiérarchique. En revanche, je suis contre le fait que ce soit le ministre. Je suis favorable, mais depuis longtemps, à la création d'un procureur de la nation qui serait nommé par le Conseil supérieur de la justice parmi les magistrats du parquet et du siège et qui serait confirmé par un vote de l'Assemblée nationale au 3/5. Et c'est ce parquet, ce procureur de la nation, qui serait indépendant du pouvoir exécutif, qui aurait la charge de conduire la politique pénale. Parce que la politique pénale, elle est définie par le gouvernement, votée par le Parlement. Après, la question est de sa mise en œuvre. Et pour ma part, pour qu'elle soit mise en œuvre de manière indépendante et de manière à garantir la liberté des citoyens, c'est par l'intermédiaire de ce procureur de la nation.
Mais est-ce que vous avez un contre-exemple à opposer à Dominique Perben, qui témoignerait du fait que ce lien hiérarchique qui fait dépendre les procureurs du ministère de la Justice peut poser justement des problèmes?
Non, parce que la politique pénale est définie par la loi. Et donc le procureur de la nation dans mon système aurait évidemment à mettre en œuvre cette politique pénale et aurait la possibilité. Il y a un projet de loi qui a été déposé il y a quelques années par un sénateur, je crois Jean-Pierre Grand. Qui proposait justement la création de ce procureur général de la nation. Et ce procureur général de la nation pourrait retrouver la possibilité de donner des instructions individuelles. Si le problème des instructions individuelles pose problème aujourd'hui, c'est parce que c'est le pouvoir politique qui le donne. À partir du moment où ce serait un magistrat qui le donne, qui serait nommé par le Conseil supérieur de la magistrature et qui serait confirmé ou non par l'Assemblée nationale, donc il y a bien un lien avec le politique, que ce procureur de la nation serait indépendant, il il y aurait là une possibilité, de mettre en œuvre de manière indépendante la politique pénale du pays.
Les instructions individuelles qui ont été supprimées par la précédente garde des Sceaux, Christiane Taubira. Isabelle de Golemin.
Oui, je me demande quelle serait la légitimité du coup de ce pouvoir judiciaire, parce que s'il n'est pas élu par la nation...
Moi, j'ai beaucoup réfléchi à la proposition que rappelle Dominique Rousseau à l'instant sur le procureur de la nation. Moi, j'ai été hésitant là-dessus, j'y réfléchis, j'en ai discuté avec un certain nombre de hauts magistrats encore ces derniers mois, et j'en suis arrivé à la conclusion que ça n'est pas satisfaisant. Moi, je suis très inquiet, si vous voulez, élargissons un peu le débat, je suis très inquiet d'une certaine montée de ce qu'on appelle le populisme, et c'est, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Nos concitoyens, les Français comme d'autres d'ailleurs, ont le sentiment que leur destin leur échappe. Sur une affaire aussi sensible que la sécurité et la justice, prenons garde qu'il n'ait pas le sentiment, encore plus qu'aujourd'hui, que justement, ce n'est pas leur volonté, ce ne sont pas ce qu'ils souhaitent qui sont pris en compte par l'institution judiciaire. D'où la nécessité d'une responsabilité politique. Alors c'est très inconfortable. Moi je me souviens de séances de questions d'actualité où j'étais évidemment mis en cause, non pas moi en tant que personne perbène, mais en tant que garde des Sceaux, parce qu'il y avait des dysfonctionnements dans le système judiciaire et la plupart du temps, j'étais pigrement pour rien du tout, parce qu'en réalité je n'avais pas l'autorité sur les personnes dont on pouvait contester les décisions. Mais tout de même, je prends un autre exemple. Dans ces mêmes années 2002-2005, nous étions confrontés à quelque chose qui était nouveau à l'époque, qui aujourd'hui paraît banal, qui était la criminalité organisée internationale, les mafias, avec en particulier les mafias qui arrivaient des pays de l'Est, etc. Et à l'évidence, on ne faisait pas face. C'était compliqué, notre organisation judiciaire ne faisait pas face, etc. Je ne rentre pas dans les détails. J'ai été amené à faire une loi qui, de façon sympathique, porte mon nom, peu importe, mais qui a apporté des réponses, mais des réponses très profondes, non seulement en termes de procédure judiciaire, de moyens donnés aux juges en termes d'investigation, mais aussi d'organisation judiciaire. On a créé des juridictions spéciales au niveau régional. Donc il y a eu là, si vous voulez, une interaction entre le constat que faisaient les magistrats et qui me remontait, l'analyse que faisait le politique avec les gens à l'Assemblée nationale et la possibilité pour l'exécutif à ce moment-là de se retourner vers le législatif, de proposer un texte de loi qui donnait à l'institution judiciaire des moyens supplémentaires. Cette articulation entre les trois pouvoirs, elle est très importante, c'est le cœur de notre système constitutionnel. Si vous détachez complètement le système judiciaire de l'exécutif et en fait aussi du législatif, vous aurez une capacité de réaction beaucoup plus faible et à mon avis un affaiblissement de la fonction judiciaire.
Alors là, il y a deux choses importantes, Dominique Rousseau, qui est celui à la fois de créer un déséquilibre par rapport à ce qui est aujourd'hui un équilibre des pouvoirs entre le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Et puis, la question qu'évoquait Isabelle de Golemin, c'est-à-dire celle de la légitimité qui serait celle de ce Conseil supérieur de la justice, c'est-à-dire qui ne serait pas élu par le peuple. Alors vous allez me dire, le ministre de la Justice, il n'est pas élu non plus, mais enfin, il est élu, on va dire, indirectement, puisque le gouvernement procède quand même des élections.
Il est responsable devant le Parlement.
Oui, oui. Sur le problème de l'équilibre des pouvoirs entre législatif, exécutif, judiciaire, la description que vous faites, monsieur le ministre, c'est la description de la prise de conscience d'un État, d'insécurité, la criminalité internationale, la criminalité organisée, et votre responsabilité de politique vous conduit à faire voter une loi et à mettre en place des juridictions. Bien. Mais après, c'est la mise en œuvre par la justice. Et c'est là où je considère que cette mise en œuvre par la justice n'implique pas nécessairement que le parquet soit sous l'autorité hiérarchique du ministre. À chacun sa responsabilité, au gouvernement et au Parlement, de faire voter les lois et de dessiner l'architecture institutionnelle et de définir une politique pénale, et puis ensuite, à la justice, de manière séparée, enfin c'est Montesquieu qui le dit, à la justice de manière séparée, de mettre en œuvre la politique. Il ne s'agit pas de donner au juge la responsabilité de définir la politique pénale du pays. Il s'agit, une fois la politique pénale, de laisser le pouvoir judiciaire mettre en œuvre de manière indépendante dans son autorité, dans ses nominations et dans le déroulement de sa carrière, la politique pénale voulue par le gouvernement, élu par les citoyens.
Cette question, Dominique Rousseau, du lien entre le ministère de la Justice et le parquet, elle a été évoquée, il n'y a pas très longtemps, par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC qui avait été déposée par des syndicats de magistrats qui contestaient une ordonnance du 22 décembre 1958 qui, justement, fait en sorte que les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux. Le Conseil constitutionnel a tranché début décembre en disant qu'il considérait que les textes étaient équilibrés et que ça faisait partie des prérogatives de gouvernement qui a pour charge de mener la politique de la nation. Et donc, que ça justifiait le fait qu'il y ait ce lien. Donc, constitutionnellement, manifestement, ça n'est pas quelque chose qui pose problème.
Ah, c'est pas parce que le Conseil constitutionnel a rendu une décision que l'affaire est pliée. Le débat continue. Si vous voulez, pour dire les choses de manière peut-être un peu brutale, les procureurs ne sont pas des préfets.
Mais ça, on est d'accord.
D'abord,
leur statut n'est pas du
tout le même. Absolument. Les procureurs ne sont pas des préfets.
On ne peut pas déplacer un procureur comme on déplace un préfet.
C'est-à-dire que la mise en œuvre de la politique
sont des magistrats, pénale,
ce sont des magistrats. Dans la décision du Conseil constitutionnel que vous citez, le Conseil constitutionnel de mémoire dit que le statut, l'indépendance des magistrats du siège, dit le Conseil, n'est pas la même que l'indépendance des magistrats du parquet. Et c'est vrai. Et là, on peut. Enfin, moi, je suis pour, au minimum, que la nomination des magistrats du parquet soit soumise à un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui me paraît important.
Ce qui est quand même le cas aujourd'hui dans la pratique, non ?
Alors oui, ça dépend des ministres. Mais
juridiquement, j'ai été le dernier ministre à pas avoir toujours suivi l'avis du Conseil supérieur.
Et pour quelle raison quand vous ne le suiviez pas, c'est intéressant.
Je faisais un peu exprès pour vous dire.
Pour montrer votre pouvoir.
Pour que le pouvoir ne disparaisse pas. Et d'ailleurs, mes successeurs ont cessé de le faire et le pouvoir a disparu. Mais peu importe. Aujourd'hui, il faut savoir aussi réfléchir, évoluer, regarder les choses. Aujourd'hui, je suis favorable à cette réforme de l'avis qui dans le texte constitutionnel, imposerait un avis conforme. Mais je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin sur l'idée que nous nous faisons de l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, ça n'est pas, je dirais, l'autogestion de l'institution judiciaire par les magistrats. Enfin, en tout cas, dans mon esprit à moi. C'est la possibilité pour le juge, lorsqu'il prend une décision en tant que juge, de ne subir aucune pression d'aucune sorte. Et il n'y a pas que les pressions du pouvoir exécutif.
Il y a quoi comme pression ?
Comme disait un ancien haut magistrat pour qui j'ai beaucoup de respect, l'indépendance la plus difficile, c'est l'indépendance par rapport à ses arrière-pensées. Nous avons tous des arrière-pensées, moi le premier. Lorsque je prends une décision, je la prends en fonction de mon éducation, de ma culture, de mon expérience humaine, peut-être de préjugés, etc. Et les juges, ils sont des femmes et des hommes comme nous tous, et forcément, et donc c'est un exercice extraordinairement difficile. C'est un métier très difficile, le métier de magistrat, le métier de juge.
Donc le ministre de la Justice, il est là pour garantir que des magistrats ne vont pas prendre des décisions avec des arrière-pensées
non,
politiques.
Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire.
Ce
que je suis en train de dire, c'est que la question de l'indépendance de la justice ne se pose pas. D'abord, à mon avis, le cœur de la problématique, c'est vraiment la décision juridictionnelle. Et pas l'organisation des juridictions, etc., le fonctionnement des tribunaux, les questions budgétaires, etc., dans lesquelles, à mon avis, les magistrats vont s'enliser s'ils sont en charge toute cette partie, de cuisine. Et par ailleurs, l'indépendance de la justice, c'est aussi l'indépendance par rapport et pas uniquement la politique. Car, vous savez, on parle beaucoup de pénal, on parle beaucoup, on a tous, y compris ce soir, en tête les questions pénales qui concernent des hommes ou des femmes politiques. Mais la justice, c'est quoi ? Moi, je le vois en tant qu'avocat aujourd'hui, c'est avoir un système judiciaire compétitif qui fasse que les grandes entreprises aient confiance dans la justice française et puissent y investir. C'est avoir une justice de la famille qui permette aux gens de régler les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, soit en termes de divorce, soit en termes de gestion des problèmes de filiation, etc. C'est tout ça la justice. Et donc, cette indépendance, il ne faut pas la considérer uniquement, je crois qu'il faut élargir le débat, ce n'est pas uniquement une problématique de relation à l'exécutif.
Alors Dominique Rousseau, oui. Justement, par rapport à ce que dit Dominique Perben, est-ce que pour vous, finalement, parce que là, on a cité le cas de ministres, c'était un peu anecdotique, bon, qui se sont exprimés dans les médias, etc. Mais est-ce que pour vous, vraiment, il y a danger ? Est-ce que vraiment la justice aujourd'hui en France n'est pas indépendante ? Est-ce que c'est la priorité des priorités de faire cette réforme ? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de moyens, de budget,
d'effectifs ? Quand même, c'est pour revenir sur le départ ou les citations que vous avez faites sur les manifestations. Bon. Il y a quand même, malgré tout, au sein de la justice, un malaise, notamment sur le statut du parquet. L'ancien président de la conférence des procureurs l'a noté. C'est quand même pas un hasard si Jean-Louis Nadal, ancien procureur général de la Cour de cassation, et Jean-Louis Marin, actuel procureur général de la Cour de cassation, sont tous les deux d'accord sur la création de ce procureur de la nation dont je parlais tout à l'heure. Donc que les deux plus hauts magistrats du parquet, même s'il faut distinguer le parquet de la Cour de cassation des autres parquets, manifestent ce souci d'une indépendance du parquet par rapport au pouvoir politique, paraît quand même quelque chose qui traverse aujourd'hui la magistrature.
Ça fait considérer qu'ils le font pour s'affranchir d'un contrôle politique. On veut gérer les affaires entre nous, l'autogestion, comme disait Dominique Perben.
C'est évidemment, on va dire, la magistrature veut se gérer elle-même. Le Conseil supérieur de la justice, que j'appelle de mes voeux, est volontairement de la justice et pas de la magistrature. C'est bien la marque que ce Conseil doit gérer l'institution service public justice. Et ce n'est pas le Conseil du métier, de la corporation des magistrats. Et il s'agit de faire que ce Conseil supérieur de la justice soit l'institution qui protège et qui garantisse l'indépendance des magistrats, parquet et siège, à l'égard de toutes les pressions. Pression syndicale, pression de la hiérarchie judiciaire, pression politique, pression religieuse, pression culturelle, toutes les pressions. Il faut ce Conseil qui mette à l'abri les magistrats. Et je dis que c'est d'autant plus important, parce qu'on parlait tout à l'heure du populisme, et vous dites, est-ce que c'est grave, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire ? Je pense que si on essaie un peu d'élever le débat, comme vous voulez le faire ici, si on regarde comment fonctionne une démocratie fonctionne sur deux piliers, généralement. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui regardent. Finalement, il y a la voix et il y a l'œil. La voix, c'est les hommes politiques, les élus, ils sont au Parlement, ils parlent, la voix, ils votent des lois, les lois pénales. Et puis, pour que ça soit équilibré, il faut qu'il y ait un œil qui regarde. Et cet œil, c'est les journalistes, c'est les juges. Et vous remarquerez que lorsque on porte atteinte à l'un des deux piliers, on porte atteinte à la qualité démocratique d'une société. Vous regardez, si vous regardez ce qui se passe à l'Europe de l'Ouest, de l'Est, en Hongrie, en Pologne, on attaque quoi ? On n'attaque pas les élus, on attaque les juges. On diminue les pouvoirs du juge constitutionnel. On limite la liberté de la presse.
Mais peut-être que justement, le ministre de la Justice est là aussi pour protéger les juges.
Mais ce n'est pas à lui de le faire, puisqu'il appartient au pouvoir exécutif. J'ai fait du Montesquieu basique, peut-être, mais il appartient au pouvoir exécutif. C'est comme s'il y avait dans la Constitution, le pouvoir exécutif protège l'indépendance du pouvoir législatif. Tout le monde crierait au scandale. Là, il est dit que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et tout ça, enfin, tout le monde trouve ça normal ici. Mais allez vous promener dans les autres pays avec cette constitution, les collègues vous disent « Ah oui, mais c'est une constitution qui ressemble beaucoup à la Procuratura ».
constitution dont on va fêter le 60e anniversaire, qui mérite peut-être d'être un petit peu plus
restaurée. Quand même dans le réel, c'est-à-dire la France telle qu'elle existe et pas telle qu'on la fantasme ou telle qu'on peut la craindre. Il n'y a pas cette menace aujourd'hui. Et les institutions assurent depuis déjà un certain nombre d'années une réelle indépendance de la justice. Non, moi je ne crois
en
pas
évoluant,
du tout.
Hein, cela dit, hein, pendant
bien sûr, bien sûr. Mais je ne crois pas du tout à un système hors sol. Bon, je ne veux pas élargir trop le débat, mais que pour des fonctions de régulation des marchés, on crée des autorités administratives indépendantes. Ça a été le cas pour la concurrence, c'est le cas pour l'électricité, c'est le cas pour les télécommunications. Il s'agit de réguler un marché. On nomme des gens qui sont indépendants, qui sont nommés pour une durée déterminée et qui donc peuvent exercer cette indépendance. S'agissant de la justice, je ne crois pas du tout à l'efficacité d'un système comme celui-là, puisque finalement, le procureur de la nation, ce serait une autorité indépendante. Si en plus il est magistrat, je ne vois pas bien comment il pourra avoir une vraie indépendance par rapport à l'ensemble de la profession, mais ça c'est une question subsidiaire. Je ne crois pas du tout à cela. Je crois qu'il est nécessaire, compte tenu de l'importance des débats de justice, des débats de sécurité, des débats qui tournent autour de l'éthique, de la... Enfin, souvenez-vous de la décision de la Cour de cassation sur les questions du handicap, il y a quelques années, qui avait amené d'ailleurs le législatif à corriger la loi pour éviter une jurisprudence qui paraissait inacceptable aux politiques. Donc, on est au cœur de sujets extraordinairement sensibles. Et je crois qu'il faut faire très très attention de ne pas rompre ce lien entre l'institution judiciaire et le peuple et l'opinion. Alors bien sûr, il faut prendre des précautions, il ne faut pas aller s'aventurer dans ce qui est en train de se faire en Pologne ou dans des pays comme celui-là, mais attention, cette coupure, elle peut être extrêmement dangereuse, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir des réactions très brutales de l'opinion si elle ne comprend plus son système judiciaire, si elle ne comprend plus les décisions de justice, c'est là que les choses deviendront dangereuses.
Sur cette question d'une autorité indépendante, Dominique Rousseau, dans le journal La Croix, parce que j'ai oublié de le dire au début, mais on le sait, c'est tous les mois, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire la question qu'on pose le soir dans Du Grain à Moudre, elle est posée dès le matin avec les mêmes invités, donc Dominique Rousseau et Dominique Perben, faut-il supprimer le ministère de la Justice? Et à la fin de votre interview, vous faites le parallèle avec ce qu'a été la disparition du ministère de l'Information, c'est-à-dire on pourrait faire la même chose pour le ministère de la Justice, puisque vous dites, bah, y a bien une autorité indépendante qui a été créée. Cette autorité indépendante, c'est le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sauf qu'à l'usage, est-ce qu'on est bien sûr qu'une telle autorité indépendante l'est beaucoup plus et que l'audiovisuel est beaucoup plus indépendant qu'il ne l'était quand il y avait un ministère de l'Information? Je ne sais pas si vous voyez à quoi je pense.
Vous pouvez être plus précis. Non, bien sûr, si vous voulez...
Plus simple.
Quoi. Voilà. Voilà, s'il y avait un ministre de l'Information, c'était effectivement plus simple. Non, mais si vous voulez,
je voulais dire, ce qui est plus simple, le CSA, c'est quand même plus simple que le CSM.
Oui. Ah, mais j'avais compris que vous regrettiez, moi, l'époque.
Non, j'ai compris un peu à retardement que vous me soupçonniez de penser cela. Ouais. Non, il s'agit uniquement de nommer les directeurs des chaînes et tout ça, c'est quand même plus simple. Là, ce que vous proposez, Dominique Rousseau, c'est beaucoup plus ambitieux, c'est de confier à ce conseil, en fait, l'essentiel des prérogatives actuelles du ministre.
Du ministre,
absolument. C'est tout à fait autre chose. Oui. C'est la raison pour laquelle je parle d'une justice hors sol.
Oui, mais alors c'est pas une justice hors sol, justement, puisque le Conseil supérieur de la justice auquel je pense, qui serait donc nommé à parité magistrat, non-magistrat, dont le président serait un non-magistrat et qui aurait comme compétence la responsabilité de l'École nationale de la magistrature, la nomination et le déroulement de la carrière des magistrats et le régime disciplinaire des magistrats. Mais ce Conseil supérieur de la justice ne fonctionnerait pas hors sol. Il aurait des comptes à rendre, à faire son rapport d'activité tous les ans à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et il y aurait tout le reste qui fonctionne normalement, c'est-à-dire la responsabilité.
Je vous écoute avec le sourire, parce que les rapports annuels, je les connais, c'est celui de la Cour des comptes, par exemple, qui vient tous les ans à l'Assemblée. J'ai été longtemps parlementaire. On écoute avec beaucoup de courtoisie le rapport qui nous est fait, et puis ensuite on passe à autre chose.
Ah ben vous rendez compte ce que vous dites des parlementaires?
Ben oui, mais c'est la vérité.
C'est quand même terrible. Parlementaires. Alors on fait des rapports et les parlementaires n'écoutent pas. Et après vous voulez que ce soit les parlementaires qui décident. suicide.
Il faut parler des choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on veut les rêver. Je pense que si vous n'avez pas eu une véritable accroche au cœur du pouvoir politique, vous n'avez pas d'accroche du tout.
Non, mais je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le risque de coupure entre la justice et le pouvoir politique. Le risque de coupure. Moi, le risque que je vois actuel, c'est qu'il y a tellement de liens entre le pouvoir politique et la justice que ça finit par créer dans l'opinion publique un soupçon sur la réalité de l'impartialité de la justice et que nos citoyens se détournent de la justice, se détournent des institutions de la République pour trouver d'autres moyens de se faire justice. Les zadistes, etc. Bon, donc je pense qu'il faut trouver là aussi une juste mesure, c'est-à-dire la question n'est pas de couper le pouvoir politique de la définition des lois qui vont apporter aux citoyens une sécurité. Ça, il n'y aura pas de coupure. En revanche, là où il doit y avoir non pas coupure, mais réorganisation, une nouvelle articulation, c'est sur la mise en œuvre de cette politique par une justice qui soit indépendante et qui ne soit plus liée directement aux politiques. Donc aujourd'hui, c'est la fusion entre le parquet et le ministre de la Justice qui crée un soupçon, et c'est un soupçon qui est préjudiciable pour l'ensemble de nos institutions.
Oui, Dominique Perben, pour prolonger un petit peu la réflexion de Monsieur Rousseau, est-ce que le fait quand même qu'on ait un peu changé de régime, avec aujourd'hui un président qui est élu pour 5 ans, qui a une action beaucoup plus directe et politique, ne plaide pas pour mieux séparer le pouvoir judiciaire du pouvoir politique? Parce que c'est vrai qu'avant, c'était le président de la République qui était garant de cette indépendance. On peut dire qu'aujourd'hui, le président de la République est comme un chef de gouvernement.
Il y a eu la réforme de 2008 qui était, à mon avis, assez dans l'esprit de ce que vous dites, c'est-à-dire de prendre acte de l'évolution avec du quinquennat. La réforme de 2008 qui fait que ça n'est plus le président de la République et le garde des Sceaux qui, comme vice-président qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Moi, j'ai connu ce système. En réalité, le président de la République présidait très rarement le Conseil supérieur de la magistrature. Il le faisait que lorsqu'il y avait des très grandes nominations à l'ordre du jour. Et en fait, c'était le garde des Sceaux qui présidait. Mais on était déjà dans une demi-fiction, puisqu'en réalité, moi, je présidais les réunions. Mais en fait, le Conseil se réunissait la veille ou quelques jours avant du jour où je venais, et préparer toutes les décisions en mon absence, ce qui ne me gênait pas du tout. Donc on était dans une sorte de formalisme. Donc il y a eu ce détachement, s'est fait. Alors la décision a été prise en 2008 de confier la présidence au premier président de la Cour de cassation. Je pense que ça a été une erreur.
Absolument.
Parce que là, on montre du doigt, j'allais dire, on souligne le risque corporatiste. Je pense qu'il aurait fallu le faire présider par une personnalité indépendante, ce que vous proposez pour le Conseil supérieur de la justice. Moi, je suis d'accord sur cette évolution dans la composition, dans la présidence, et pour qu'il y ait effectivement cette distance. Et si on y ajoute, dans la Constitution cette fois, l'obligation de l'avis conforme, moi, je pense qu'on a là quelque chose d'assez équilibré, sans aller jusqu'aux propositions de Dominique Rousseau.
Et si on y va jusqu'aux propositions de Dominique Rousseau, et pour terminer, vous avez une minute, Dominique Rousseau, est-ce que ça suppose que ces propositions-là modifient considérablement les institutions de la Ve République? Est-ce que d'ailleurs, les institutions de la Ve République résisteraient à ces réformes-là, où
il faudrait carrément changer les institutions de la Ve République.
Constitutionnalistes, là, évidemment.
Elles sont solides.
Elles sont solides, elles ont résisté à mai 68, elles ont résisté à l'arrivée de Giscard, elles ont résisté à la cohabitation, elles ont résisté à l'arrivée de Mitterrand. Donc
elles vont résister à Dominique Rousseau aussi.
Elles résisteraient bien à une réforme de la Constitution concernant la justice.
Bon, ben merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à cette discussion. Merci. Faut-il supprimer le ministère de la Justice? C'était donc le thème qui vous réunit. C'est tous les deux, Dominique Perben et Dominique Rousseau, émission que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Mes discussions qu'on peut aussi lire dans le journal La Croix du jour. Merci Isabelle de Golemans. On se retrouve le mois prochain, le dernier jeudi du mois, comme à chaque fois. Meri à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Leïla Saïdi, Marine Beccarelli, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Antoine Pitolini. Dans un instant, vous allez retrouver la dispute avec Arnaud Laporte.
Vous avez l'air presque inquiet.
J'essaie de me souvenir, vous parlez de littérature, c'est ça?
Je dis c'est bien Hervé, ça fait jamais que 6 mois qu'on est là tous les soirs ensemble. Littérature ce soir, les romans de Christine Montalbetti.
C'est pour ça que notre couple tient, vous voyez, c'est parce qu'à chaque fois je suis étonné.
C'est parce qu'on se voit peu.
Je suis surpris.
C'est ça. Bon, Christine Montalbetti, Jacqueline Woodson, Lucas Berfous. Mais ce que je veux savoir avant tout, c'est la question de demain. Mais demain, c'est le Club des idées, mais il y a quand même une question.
C'est bel il y a toujours une question. Est-ce que quand c'est off?
Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais je vous le dirai off. Merci beaucoup, Hervé Gardette, France Culture. Il est 19h, les titres d'actualité vont vous être donnés par Valentine Joubin.